Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à lire. À l'occasion de l'apparition du premier numéro du magazine Carnet d'ailleurs, Voyage dessiné et l'exposition qui a eu lieu à la galerie Armagnac, Fred Michel est parti à la rencontre de Joël Alexandra et de Jean-Paul Moulin qui racontent l'origine du magazine, sa ligne éditoriale et son contenu riche en curiosité découverte autour du dessin et de la thématique du voyage. Interview donc pour Dans ma bulle.
Bonjour Jean-Paul Moulin.
Bonjour Fred.
Bonjour Joël Alexandra.
Bonjour Fred.
Bienvenue dans ma bulle. Aujourd'hui, on va parler d'une revue, d'une nouvelle revue qui s'appelle Carnet d'ailleurs, sous-titré Voyage dessiné. Alors cette revue, comment elle est née? Parce que c'est un peu audacieux de lancer une revue maintenant.
Alors en fait, je dois dire qu'on était un peu imbibés tous les deux, donc c'est une excuse.
Imbibés de substances
Mais d'alcool. Je crois que c'était un pinot noir
précis.
D'Ardèche, je crois.
C'est super précis.
Je peux même dire le lieu du restaurant, mais c'était un wagon qui se trouve près de la gare Saint-Lazare, qui est un wagon, je ne sais plus, mais c'était très bien. Et puis on avait tous les deux envie de travailler dans la presse. Moi-même, j'ai déjà travaillé pour des BD, l'immanquable et les arts dessinés. Et puis on avait envie de lancer un nouveau projet et on discutait avec Joël, avec qui j'avais déjà fait plusieurs albums d'un projet. Et puis on a eu envie de la même chose au même moment, ce qui est plutôt un bon point de départ en fait.
Alors bonjour Fred, de nouveau. oui, imbibé pas mal, ouais, quand même, hein, parce qu'il faut être assez inconscient pour lancer un support comme ça quand on voit les difficultés des magazines en kiosque en ce moment.
Ouais, c'est audacieux.
Mais comme disait justement Jean-Paul, c'est vraiment une envie, une passion commune en plus, hein, parce que y a vraiment la. Moi, j'ai la passion du dessin de voyage depuis presque 30 ans, hein, même en bande dessinée. Jean-Paul, comme il le disait justement, vient de la presse, vient de l'édition de bande dessinée, on se connaissait déjà. Et puis il a la passion du voyage aussi, donc c'est vraiment deux périmètres, deux territoires qui nous sont propres. Et puis on avait envie de créer un projet à la fois innovant, parce que en regardant, moi ça fait un petit moment que je regarde à gauche, à droite, etc., il n'y a rien qui correspond à ce type de support.
D'ailleurs, c'est étonnant, oui, que ça n'existait pas auparavant.
Alors, il y a des magazines, hein, qui traitent du dessin, on les connaît. Hein, voilà. Après, sur le voyage et le dessin de voyage, rien n'existe.
Il y avait une rubrique carnet de voyage. Alors, je ne sais pas si elle existe toujours, mais dans Tintin, c'est l'aventure, qui est un trimestriel qui est publié par l'édition Prisma, qui se sert de Tintin pour parler de voyage. En fait, c'est des reportages qui sont repris de Géo, hein, soyons clairs. Et il y avait une rubrique et qu'on connaissait un peu les gens de chez Prisma et qui nous disaient que ça marchait pas mal, que les lecteurs étaient contents. Mais il n'y avait pas de magazine dédié au voyage dessiné. Alors après, il y a aussi un élément qui est super important, c'est qu'on connaît plein de gens qui font des super dessins, que ces super dessins ne sont pas nécessairement vus. Il y a un petit peu un secteur éditorial, mais c'est des très petits tirages. Et puis les auteurs comme Geneviève Marot, qu'on connaît bien, Simon Hureau ou David Vautier, c'est des trucs incroyables qu'on avait vus et qu'on a envie de montrer au grand public. C'est aussi ça l'envie. L'envie, c'est pas seulement de faire un magazine, mais de faire ce magazine-là. Parce qu'on travaille avec des artistes qu'on adore et qui ont envie aussi de montrer leurs trucs et qui avaient besoin d'un vecteur pour atteindre un public qu'ils ont du mal à atteindre aujourd'hui. Et donc la présence en kiosque, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un gros tirage pour le premier numéro, c'est un gros pari financier, mais c'est aussi pour leur donner un écrin pour que leur travail soit visible.
Tu veux rajouter quelque chose?
Tout a été dit.
Merveilleux. C'est ce que vous disiez, Jean-Paul, justement, le monde des carnétistes, c'est un monde qu'on ne connaît pas très bien, mais qui est très dense et très vivant. Il y a toute une communauté.
Je peux répondre aussi, parce qu'en fait, c'est une communauté que je connais depuis assez longtemps. Parce qu'il y a des festivals, alors on connaît bien avec Jean-Paul les festivals de bande dessinée. Et moi, je fréquente les festivals de carnétistes, de carnets de voyage, depuis très longtemps. Et notamment, il y a un des fleurons du festival de carnet qui est Clermont-Ferrand, qui est le festival international du carnet.
C'est une référence.
C'est une référence. D'ailleurs, on était présents avec Jean-Paul pour présenter le magazine au mois de novembre. Et là, on voit quasiment tous les auteurs, enfin en tout cas une grande partie de la communauté est là. C'est fabuleux. Enfin, tout ce qui se passe au niveau du carnet et qui est insoupçonné, c'est incroyable.
Mais n'y a pas que des festivals dédiés au carnet de voyage. Il y a aussi des festivals qui parlent de voyage avec des conférences, des expositions photos qui laissent une part importante aux carnétistes. Et par exemple, début avril, on sera présent à Oullins, dans la banlieue de Lyon, pour un festival qui s'appelle Quai du Départ, qui a une très belle réputation et qui intègre le carnet de voyage comme un des éléments de la culture du voyage. Et c'est ce public-là qu'on a envie de rencontrer et qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer au fur et à mesure des invitations. Il y a aussi un élément très important, c'est la communauté des Urban Sketchers. Donc, c'est une communauté très, très soudée, avec des milliers de membres en France. Et on a appris à les connaître. Enfin, Joël les connaissait un peu. Il avait déjà eu l'occasion de discuter avec eux. Mais par exemple, on a une des autrices du numéro 2 qui s'appelle Marielle Durand, qui est très, très active à Paris, qui organise des stages, qui organise des rencontres. Et tout ça est totalement non commercial. Mais au niveau mondial, je pense qu'il doit y avoir 100 000 personnes qui partagent des groupes sur Facebook, qui se rencontrent à Singapour.
Ils sont très actifs.
Et c'est un mouvement qui n'est pas très vieux, puisque ça date de 2015-2016, je crois, à Portland, dans l'Oregon. Et j'ai eu la chance, de rencontrer un des fondateurs du mouvement. Et c'est très, très chaleureux, amical, sans jugement, avec cette idée qu'un dessin par dessin, on peut découvrir, un dessin à la fois, on peut découvrir le monde. Et c'est vraiment une communauté dont on se sent très proche et qui nous a permis de trouver beaucoup de soutien pour le lancement du magazine.
Ouais, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux également.
Merci.
Joël ?
Oui, en fait, c'est le principe. Il y a une charte des urbaines qui dit simplement que le dessin doit être fait sur place absolument et qui doit être partagé sur les réseaux. Ça fait partie de la charte des Urban Sketchers. Et comme disait Jean-Paul, il y en a un peu partout. Hein. Moi, j'ai fait des groupes, j'ai dessiné avec des groupes à Hong Kong. Il y a des groupes. Et il n'y a pas de... Comment dire c'est vraiment dans la bienveillance. C'est-à-dire que il y a des rendez-vous qui sont donnés. On se retrouve avec des groupes de 10, 15 personnes et on travaille sur des thématiques communes, c'est-à-dire que il y a une espèce de leader de groupe de région. Il y en a à Rennes, il y en a à Strasbourg, il y en a qui va donner rendez-vous via les réseaux, on va dire 10h samedi matin dans la cathédrale, et puis on se retrouve et tout le monde va dessiner autour de ça. Voilà.
Alors, ce groupe français, je crois qu'il y a 10 000 membres. Alors c'est pas tous des dessinateurs, ils se rencontrent pas tous, ça dépend de la logistique, etc. Il y a ce qu'ils appellent le symposium annuel par pays. Ça aura lieu à Nantes pour le week-end de la Pentecôte et on sera présent. On vient de recevoir notre invitation pour parler du magazine, mais ils attendent entre 1 000 et 1 500 visiteurs qui vont ensemble dans les différents parcours de la ville dessiner, s'il ne pleut pas évidemment, s'il pleut je crois qu'il y a des solutions de backup, mais c'est vraiment une communauté super quoi. Ça, c'est vraiment des gens sympathiques
qui sont dans le partage,
voilà, et puis le plaisir d'être ensemble surtout.
On va s'arrêter sur le premier numéro. Alors, ce premier numéro, comment vous l'avez constitué, comment vous avez formé cette équipe?
Alors, commençons par le début. ce qui nous semblait... la première bouteille, voilà. Sur la première bouteille...
Ça veut dire qu'il y en a eu plusieurs.
Non, alors il y a plein de manières d'aborder... c'est vrai que ça a été un travail un petit peu de longue haleine, hein, parce qu'on a travaillé dessus depuis, ça fait quoi, 6 mois, un an quand même hein, qu'on... Exactement, début mai. Quasi un an, ouais, un an. Il a fallu décortiquer un petit peu les envies, les besoins, créer un rubriquage, créer un chemin de fer. Et on a opté pour une entrée, moi je qualifierais ça d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on a, on a un niveau 1 qui est couverture et dossier, mais qui ne représente pas le contenu du magazine. Par exemple, sur le numéro 1, on est sur le Japon, mais ça ne veut pas dire que le magazine sera axé sur le Japon. Et ensuite, en entonnoir, on a 3 grandes rubriques majeures qui sont Monde, Europe et France, dans laquelle on aura 3 contributeurs, c'est-à-dire 3 auteurs qui vont travailler sur ce rubriquage. Ensuite, on a des rubriques adjacentes, patrimoine, enfin Jean-Paul pourra en parler aussi ensuite. Avec à chaque fois des styles. Alors ça, c'est vraiment une volonté qu'on avait. Hein. C'est donner un regard très pluriel par rapport au carnet. C'est-à-dire qu'on a, on a des aquarellistes, on a des gens qui travaillent au crayon, on a des gens qui sont à l'encre, en noir et blanc.
Il faut des approches différentes.
Ouais. Des approches, ben, non seulement de destination, d'angle, parce que moi, je ne verrais pas du tout un dessin comme de Loupi le verrait. On ne dessinerait pas les mêmes choses dans les mêmes lieux. Et c'est ça qui est vraiment très riche et très intéressant. C'est chacun va apporter son angle, sa vision. Et on demande également aux contributeurs d'écrire un petit texte qui est donc Jean-Paul supervise ça de près. Enfin, les auteurs sont libres évidemment d'écrire ce qu'ils veulent, mais on les guide un petit peu quand même dans leur écriture. Et c'est quelque chose de très subjectif, c'est-à-dire comment ils ont ressenti le lieu qu'ils dessinent, pourquoi ils ont utilisé telle technique, tel angle, etc. Donc voilà.
La chose qu'il faut préciser et qui est très importante, c'est qu'il faut que les auteurs aient été sur place. C'est-à-dire c'est subjectif au sens non pas de la destination fantasmée, mais de la destination vécue, des sensations qu'ils ont eues sur place. Par exemple, sur le premier article du premier numéro, on attaque très fort puisque l'auteur Renaud Marca et sa compagne Claire sont allés au Japon et sont allés au Japon dans le cadre d'une convalescence liée à un événement médical important et négatif. Hein, on ne va pas se tourner autour du pot, c'est la rémission d'un cancer. Et donc, chaque article parle à la première personne. Alors, ça parle à la première personne d'un endroit plus ou moins lointain, d'un endroit plus ou moins exotique, mais aussi d'un endroit où parfois les auteurs vivent. Je crois que sur les 11 dossiers, il y en a 4 ou 5 où c'est les auteurs qui vivent sur place et qui vont raconter leur ville et leurs sensations de leur ville. Par exemple, il y a un auteur qui est un Indien, qui s'appelle Sancha Banerjee, et qui vit à Calcutta et qui parle de Calcutta et qui dit ben, « moi j'ai envie de raconter ma ville ». Mais c'est totalement émotionnel. Il se trouve que c'est un professeur de dessin et donc il emmène ses étudiants dessiner la ville. Donc il savait déjà ce que c'était que de parler d'une ville et il a eu envie de retourner aux endroits où il emmène ses étudiants. Donc la subjectivité et l'expérience vécue sont clés dans les articles. Après, parfois, c'est plus ou moins, il y a un équilibre qu'il faut trouver entre le texte d'un auteur, les dessins et parfois des interviews, parce que l'auteur, lui, voit à sa façon, mais le lecteur, il a envie d'en savoir un peu plus. Il a envie de savoir dans quelles conditions il est allé sur place, et ainsi de suite. Donc, chaque article va trouver un équilibre entre ces différentes approches.
Alors, il y a aussi une notion à laquelle on tenait énormément avec Jean-Paul, c'était cet esprit un petit peu feel good, le magazine feel good, où on se sent bien, où on a il y a beaucoup de magazines, notamment des collègues qui travaillent, on peut les citer, hein, des revues comme la revue 21, la revue dessinée, etc., qui sont très axées géopolitiques pour 21. Pour la revue dessinée, c'est quelque chose aussi d'un petit peu social, politique, etc. Nous, notre envie, c'était vraiment d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, ça ne veut pas dire naïf ou candide, ou, voilà, mais de beaucoup plus léger, où on avait envie de prendre le temps d'observer, de se promener à travers les dessins des auteurs.
C'est ça, l'idée, c'est de prendre son temps, en fait.
Oui, et en cela, le dessin est la meilleure façon de prendre son temps, parce que quand David Vautier passe 4 heures sur chaque dessin à Cassis, il y a une vingtaine de dessins, on sent qu'il a senti Cassis, quoi. Enfin, et donc ça c'est quelque chose de très important. Mais ce qu'on dit, c'est que nous, ce qu'on apporte, c'est des émotions, c'est pas des informations. On n'est pas là pour informer les gens, on est là pour leur partager avec eux les émotions de ces auteurs qui ont vécu sur place et qui ont passé 4, 5, 6 heures à faire un dessin. Alors, tous les dessins ne sont pas finalisés sur place. Par exemple, dans la rubrique Arrêt sur image, il y a un très beau dessin d'une rue de Saïgon, de mémoire. C'est un tableau qui fait 1 mètre par 1 mètre, qu'il a commencé sur place et qu'il a fini chez lui en rentrant de son voyage. Donc, ça peut être très diversifié. Mais c'est de l'émotion qu'on veut faire passer.
C'est l'ailleurs et les voyages, ouais, c'est le titre.
C'est résumé. Je voulais ajouter une petite chose par rapport au dessin dans la façon de prendre son temps. C'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, et notamment avec nos portables, on passe moi-même, hein, à faire 100 000 photos à la seconde, etc. Et c'est très, très compliqué de se souvenir à quel moment on a fait cette image, etc. Avec le dessin, c'est absolument le contraire. Moi, je peux prendre un carnet que j'ai fait il y a 10 ans dans ma bibliothèque de carnets, ouvrir une page, regarder le dessin et me souvenir quasi, comment dire, de manière très, très fidèle du moment, du contexte, quasiment de l'odeur qui m'enveloppait avec le dessin. Et ça, c'est valable pour tous les dessinateurs. Ce qu'on n'a pas avec le numérique. Donc on prend le temps de s'imprégner de ce qu'on regarde avec le dessin. Et j'espère que pour nos lecteurs, ce sera un petit peu la même chose.
C'est une expérience en fait.
Ah ben, je ne sais pas si elle est mystique, mais en tout cas, elle est très enrichissante, parce que ce que j'ai cœur à dire aussi, c'est que le dessin de voyage, en tout cas le carnet de voyage, est un véritable passeport pour nous dessinateurs. Puis j'espère qu'on peut faire passer ces notions aussi pour le lecteur, mais c'est, même si on ne parle pas la langue du pays et qu'on s'assoit dans un coin avec un carnet, on a tout de suite une ribambelle de gamins qui arrivent, les parents qui suivent et le contact se fait. C'est le dessin est un vecteur incroyable de communication, de rencontre de l'autre. C'est vraiment c'est tout à fait ça.
Il ne s'agit pas, bien évidemment, de réduire le travail des photographes. Une photo, ça se construit, ça se travaille, mais ça peut aussi prendre des heures. Ça peut aussi prendre des heures pour marcher, pour aller à l'endroit où on va prendre la photo. Donc, ça existe. Sauf que la photo, c'est déjà très couvert. C'est-à-dire que, évidemment, tout le monde a en tête Géo, National Geographic. C'est un moyen d'expression qui est largement couvert, qui est largement traité et qui, en plus, d'après tous les sociologues, est en cours de dévalorisation. Dévalorisation pour deux raisons. La première, parce qu'il y a l'intelligence artificielle qui permet de faire du photoréalisme, donc on ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis dévalorisation parce qu'on a tous 10 millions de photos dans notre téléphone qu'on ne regarde jamais. Donc ce n'est plus comme quand il fallait attendre le développement, défaire la pellicule, etc. Alors que le dessin, effectivement, il peut y avoir de l'intelligence artificielle qui produit des dessins, mais on a la garantie de tous nos auteurs et de tous les gens avec qui on travaille qu'il n'y aura jamais d'intelligence artificielle dans ce magazine. Mais en même temps, le dessin reste relativement rare. On n'a pas tous les jours des dessins d'une excellente qualité sous les yeux. Ça permet de garder une certaine valeur visuelle, sentimentale au dessin.
Alors moi, Joël, j'aimerais qu'on s'arrête sur votre pratique justement du carnet de voyage. Comment ça s'articule entre votre travail en bande dessinée et le carnet de voyage? Est-ce que vous utilisez le carnet de voyage pour vos bandes dessinées ou c'est juste comme souvenir, comme vous venez de le dire?
Oui, comme on disait un petit peu en préambule, le voyage, moi ça fait plus de 30 ans que je pratique le voyage. J'ai commencé d'ailleurs la bande dessinée en Afrique. Je travaillais pour un institut français en Afrique de l'Est. Et cette notion de dessin de voyage, elle m'accompagne autant que faire se peut dans mes productions de bande dessinée. De plus en plus, alors évidemment pas quand ce sont des commandes ou des travaux avec des scénaristes, mais j'essaye de travailler de plus en plus aussi avec des scénaristes qui sont des scénaristes qui pratiquent le voyage. Là, je suis en train de travailler sur un sujet avec un scénariste qui travaille chez MSF, par exemple, chez Médecins Sans Frontières. Donc, on parle de choses de terrain, on parle de choses vécues et on parle surtout de lieux où je me suis rendu. Je travaille aussi sur un sujet chez Futuro, sur la Grande Muraille Verte, où là, je suis pas à pas une sportive de haut niveau qui fait la traversée de l'Afrique de Dakar à Djibouti. Et moi, je la rejoins sur certains points pour dessiner in situ, parce que le dessin de voyage fait partie intégrante, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, crédibilise un petit peu la réalité du récit qui est un petit peu enjolivé, parce qu'on fait de la bande dessinée forcément, et c'est pas du reportage dessiné. Hein. J'essaie de faire un distinguo entre les deux, hein. Entre le dessin de voyage, le reportage dessiné et la bande dessinée sont encore trois territoires qui sont différents. Mais oui, le dessin de voyage accompagne, j'espère, et va accompagner longtemps la production en bande dessinée.
Justement, au micro, on parlait de Taille d'âme.
Oui, Taille d'âme, c'est un album de 2020, je crois, voilà, qui raconte un petit peu l'histoire de ma compagne qui est née au Laos et qui est une réfugiée. Hein, elle est rentrée en 75 en France, elle est venue en 75 en France, à l'issue pendant la guerre du Vietnam, pour rejoindre un camp de réfugiés en Thaïlande, etc. Donc je raconte un petit peu tout ça. Et je mélange dans cet album plein de notions. Alors du dessin de bande dessinée, du croquis de voyage, puisque évidemment on est allé sur place rencontrer les protagonistes de toute cette histoire. Et puis des photos aussi qui permettent de donner des repères comment dire, chronologiques et authentiques de l'histoire qui est racontée. Donc tout ça est un espèce de mélange de techniques graphiques, d'assemblage, qui permet d'avoir de la narration. Ce qui est important en bande dessinée, c'est de mon point de vue, hein, tout à fait, bien sûr, c'est de raconter une histoire, quels que soient les moyens qu'on va mettre, dans les moyens graphiques ou d'écriture, pour raconter cette histoire.
Alors on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Moi, ce que j'aime bien dans l'idée de carnétiste, c'est qu'on peut voyager, mais c'est pas forcément voyager à l'autre bout du monde. On peut voyager au coin de sa rue, dans son village. C'est ça aussi qui est intéressant.
Oui, alors évidemment, c'était très important pour nous de garder un pied ancré en France. C'est la première destination touristique mondiale, hein, n'oublions pas, c'est la France qui a le plus de visiteurs. Et la France, on ne la connaît pas toujours très bien, il y a toujours des merveilles, et des merveilles qu'on va essayer de mettre en avant, et on donne une part égale aux destinations françaises, européennes et internationales, parce que l'Europe aussi, c'est un point important. Donc on a essayé de trouver un équilibre. Alors juste pour, je ne sais pas si je me rappellerai de toutes, mais au niveau international, on a le Japon, on a Madagascar, on a l'Arabie Saoudite, et on va se faire taper sur les doigts parce qu'on a oublié la case. Et l'Inde, oui, voilà. Et puis à l'autre extrémité du spectre, en France, on a une fondation qui est bien spécifique, qui se trouve à Antibes, qui s'appelle la Fondation Hartung Bergmann, qui est l'atelier en fait d'un couple de peintres et qui a ouvert l'an dernier. Donc ça, c'est important de la faire découvrir, d'autant plus que l'architecture est très spécifique. Et de travailler sur ce sujet m'a permis d'apprendre des choses sur ces deux peintres que je ne savais pas et qui sont passionnantes. Et puis dans le numéro qui vient, par exemple, on a un article sur Saint-Étienne. Alors 12 pages sur la beauté de Saint-Étienne, ça peut faire sourire, mais les dessins sont magnifiques, et surtout la relation de l'auteur à sa ville, puisque c'est un auteur qui s'appelle Zach Deloupi qui vit à Saint-Étienne, c'est très émouvant en fait, c'est très touchant, et ça donne envie d'aller à Saint-Étienne. Alors peut-être pas la semaine prochaine, mais quand il y aura un peu de soleil. Mais ça donne envie d'aller découvrir cette ville. Et la France est pleine de trésors. On espère qu'on arrivera à faire naître des envies et à faire naître le plaisir, parce que c'est souvent des gens qui sont sur place qui vont en parler. Mais on a des très beaux projets. Dans le numéro 2, il y a aussi un article sur la butte aux cailles pour les Parisiens. Donc si vous avez envie de vous promener butte aux cailles, c'est parfait, parce qu'il y aura des très très belles images de la butte aux cailles par une artiste qui s'appelle Marielle Durand, que je crois que j'ai déjà cité tout à l'heure.
Exactement, il faut en parler, c'est bien.
Voilà.
Alors, cerise sur le gâteau, on termine le magazine, enfin on termine. On a une rubrique bande dessinée quand même, bande dessinée de voyage. Et on a eu la chance et l'honneur d'avoir sur le numéro 1 Simon Hureau, qui nous a fait une belle histoire, voilà, que je laisserai découvrir nos lecteurs. Voilà. On va essayer de faire tourner un petit peu les dessinateurs de bande dessinée. Il commence à y avoir pas mal d'auteurs de BD qui font de la BD de voyage. Mais voilà, donc c'était important pour nous de donner cette ponctuation-là, puisque Jean-Paul et moi venons quand même de cet univers. Donc c'était important de donner cette place à la bande dessinée.
Pour revenir au fait que ça n'existait pas, c'est un avantage en fait, parce qu'il y a beaucoup de ces grands auteurs qui se disent, qui font des albums de carnet de voyage et qui sont, encore une fois, qui ont une audience peut-être qui est un peu confidentielle. Et donc, on a la chance de compter dans nos pages François Avril dans ce premier numéro. Il y aura Loustal dans le deuxième. Alors, je ne sais pas si les contrats ne sont pas signés, donc je ne peux pas citer les autres, mais il y a quelques grosses pointures
qui aiment
beaucoup dessiner quand ils voyagent et qui devraient se caler sur les numéros qui suivent.
Justement, on va parler des numéros. Quelle est la périodicité? Où est-ce qu'on peut le trouver?
Alors, c'est un trimestriel qui va paraître fin février, fin mai, fin août et fin novembre. On peut le trouver dans les librairies BD, dans les librairies de voyage. C'est une partie de la diffusion. L'autre grande partie, c'est les kiosques. Donc, on le trouvera dans tous les relais. On le trouve dans toute la chaîne Maison de la Presse. Tous les magasins. Il se trouve que là, c'est la période des vacances de ski, donc on devrait le trouver dans à peu près tous les marchands de journaux situés dans les stations de sport d'hiver. Voilà, ça va dépendre un peu d'un numéro à l'autre. La bonne nouvelle aussi, c'est que sur notre site, qui est www. www.carnet avec un S tiré d'ailleurs en un seul mot, .fr, vous avez la liste des points de vente, que ce soit les points de vente librairie et les points de vente kiosque. Et je crois que sur les points de vente kiosque, il y a même le nombre d'exemplaires disponibles. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait sorti, puisque le magazine, alors je ne sais pas à quelle date le podcast sera disponible, mais le magazine est disponible à partir du 23 dans les kiosques. Et donc, ce sera possible de consulter si votre détaillant du coin l'a. Et puis évidemment, la troisième piste, c'est d'aller voir sur le site et de s'abonner. Alors, l'avantage de l'abonnement, c'est que évidemment, vous le recevez chez vous. C'est un magazine assez lourd, hein, ça fait près d'un kilo. Et donc, parce qu'il y a 172 pages, et c'est du très beau papier. Et donc, a priori, il sera manipulé dans son enveloppe à bulle, et il risque d'être moins abîmé que chez votre kiosquier. Donc, si vous voulez vous abonner, il faut aller sur le site, je le répète parce que c'est important, www.carnet-d'ailleurs.fr.
Justement, j'ai la revue sous les yeux, là, je tourne les pages et c'est vrai que c'est de qualité.
Alors, c'est de qualité et c'est imprimé en France, sur un papier, ce qu'on appelle PEFC, que tout le monde connaît évidemment, ce qui est, avec des forêts gérées, etc. Donc voilà, on est très attentif. Avec Jean-Paul à tout ça.
C'était important pour vous justement de prendre soin de la maquette, de prendre
alors,
soin du papier.
C'était important que ce soit un bel objet, c'est un objet qu'on garde. Alors, il y a peut-être que les auditeurs connaissent Les Arts Dessinés, qui est une revue dont on est très proche. On est très amis avec l'équipe des Arts Dessinés, j'ai eu la chance d'y collaborer. Et on a un peu suivi dans leurs traces, un petit peu dans leurs pas. Et c'était important que ce soit un bel objet. Parce qu'on pense, que, enfin, je ne sais pas si c'est le cas sur beaucoup de gens, mais moi je me souviens de feuilleter les livres, les atlas, les livres de photos. L'idée c'est qu'on y revienne et qu'on y revienne pendant plusieurs générations si tout se passe bien. Maintenant, je ne sais pas de quoi est fait l'avenir. Mais voilà, en tout cas, on l'a conçu comme un journal qui tiendrait 20, 30, 40 ans dans une bibliothèque et qu'on ne pourrait retourner consulter régulièrement. C'est impossible de le lire en une seule fois. Hein. Enfin, ou alors vraiment, l'eau du bain risque de refroidir toute l'œuvre, parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu. Encore une fois, il y a 172 pages. Donc, c'est un magazine qui est très bien sur la table du salon et dans lequel on peut revenir. Et une fois qu'il est dans la bibliothèque, on peut y retourner. On a fait attention à ce qu'il y ait un pelliculage qui permette que ça résiste au temps.
Sur la maquette, je voulais juste ajouter qu'on a pris un soin tout particulier pour avoir une maquette assez contemporaine, avec une typo assez moderne et surtout une grande place à l'image, parce que c'est ce qui est important, une grande place à l'image dans le sens où la taille des reproductions, des aquarelles, des dessins, etc. Prend une très très grande place et on a le loisir de décrypter l'image qui est de très bonne qualité. On a essayé d'avoir une gravure aussi très fidèle, autant que faire se peut avec les originaux quand on a pu les avoir en main. Ça, c'était important aussi, puisqu'on est quand même sûr du voyage dessiné et le dessin est primordial. Et donc, la qualité de la reproduction est primordiale.
Oui, on a beaucoup de doubles pages et de pleines pages. Hein.
Parfois, d'ailleurs, certains dessins sont reproduits d'une taille plus élevée que la taille qu'ils avaient dans le carnet de l'auteur. Parce que ce n'est pas possible de se trimballer avec un carnet de cette taille-là. Donc, parfois, c'est même un peu plus grand dans le magazine que ça ne l'était en réalité dans le carnet de voyage.
D'ailleurs, Joël, vous avez toujours le carnet avec vous ?
Alors, pas aujourd'hui. Je vais vous tomber mal. Mais oui, je suis toujours... À la radio, ça se voit peu. Mais oui, ça, c'est vraiment... vous discutez avec la plupart des auteurs qui font du dessin de voyage, ils ont toujours un carnet avec eux. On n'est jamais à l'abri en attendant le bus, en attendant le métro. On est toujours en train de dessiner, de griffonner. Et c'est ça qui fait aussi la richesse et la qualité du dessin de voyage et du croquis de rue, comme pour les urbaines, etc. Enfin, c'est quelque chose de très spontané. Alors on parlait tout à l'heure de dessins qui étaient refaits à l'atelier quelquefois, mais c'est vrai qu'il y a une vraie différence entre le croquis de le croqué in situ et le dessin finalisé. En fait, on voit vraiment une différence graphique, une différence entre les deux, mais c'est ce qui fait aussi la qualité des reportages qu'on propose dans Carnet d'ailleurs. C'est de mélanger des extraits de carnet qui sont vraiment faits in situ avec vraiment des scans des carnets directement des auteurs et puis des dessins qui sont un peu plus élaborés, qui sont toujours dans la rubrique, mais qui sont complémentaires des dessins faits in situ. Donc, et cet équilibre graphique pour le lecteur est passionnant parce qu'il voit, on l'évoquait tout à l'heure, tout le process en fait, du dessinateur, c'est-à-dire la construction, le dessin rapide, le croquis qui va servir ensuite à faire quelque chose de plus élaboré. Et ça, c'est, moi, je trouve ça très, très intéressant. En même temps, Carnet d'ailleurs n'est pas un tuto pour les dessinateurs ou les carnetistes, etc. Il y a d'autres supports qui font ça très bien.
Voilà. Ça peut donner le goût aussi.
Absolument. C'est, comme disait Jean-Paul tout à l'heure, c'est vraiment une invitation au voyage et une invitation au dessin. Susciter peut-être des vocations aussi, mais en tout cas, donner envie de contempler des choses jolies, sans, alors excusez-moi du terme, mais sans prise de tête. En fait, on est vraiment sur de la contemplation, du contemplatif, de la promenade dessinée. On est vraiment là-dessus.
Alors avant de conclure, j'aimerais qu'on dise un petit mot de l'exposition qui se déroule actuellement à la galerie qui nous accueille.
Oui, alors par notre historique dans la bande dessinée, on a un certain nombre de galeries qu'on connaissait et on a fait passer le message comme quoi on souhaitait organiser un petit événement. Alors c'est parmi les gens qu'on connaît bien, il y a Clément Gombert de la galerie Armagnac qui a dit « Ah bah oui, moi je connais certains de vos artistes, j'aimerais bien faire quelque chose. » Et donc on a monté assez vite une exposition avec deux artistes du numéro 1, dont Joël et puis Geneviève Marot. Et puis deux artistes du numéro 2 qui sont Zach Deloupi, donc qui nous a fait un article sur Saint-Étienne, et Marielle Durand, on ne fait que parler d'elle. Et qui, je crois qu'il y a une centaine d'originaux qui sont présentés. Et c'est surtout l'occasion de rencontrer, de faire venir tous les gens qui nous ont aidés, on a invité tous nos abonnés, parce qu'on a eu la chance d'avoir ce soutien des Urban Sketchers et de démarrer avec un volant d'abonnés assez important pour un nouveau titre. Et donc bah, on espère qu'on en verra le maximum ce soir, et c'est juste avant le début de la soirée. Et on a la chance aussi, comme on est dans cette démarche de connaissance de l'autre, qui est quand même très important dans notre travail, d'avoir un musicien d'origine arménienne qui nous fait la gentillesse de venir, venir faire quelques morceaux et de faire connaître son travail. Et il se trouve qu'il a adapté l'invitation au voyage en chanson. Et on aura, j'espère, une soirée très sympathique. Et c'est l'exposition dure pendant un mois, je crois, de mémoire.
Ça sera peut-être aussi la naissance d'un nouveau projet éditorial.
Bah, on ne sait jamais, on ne sait jamais. Moi, je dis que j'étais raisonnable ce soir.
On verra. Écoutez, merci à vous deux. Merci Joël.
Merci Fred.
Merci Jean-Paul.
Merci Fred.
Voilà, Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais évidemment, on se retrouve très vite avec de nouvelles émissions. Bonne journée à tous et à toutes.
Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.